Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'espérais pouvoir vous parler à visage découvert, si j'ose dire, mais là, avec la... Oui, merci. Donc, avec la lumière des projecteurs, je suis encore un petit peu éblouie, gênée par la lumière. Donc, la semaine dernière... nous nous sommes employés à commencer à apporter quelques éléments de réponse à la question qui nous occupe cette année, à savoir la suivante. Ce Confucius, qui a été tant de fois et qui est encore aujourd'hui de multiples façons revisité, est-il possible de le ressusciter? En d'autres termes, enseveli qu'il a été et qu'il est toujours sous une sédimentation d'interprétation et d'instrumentalisation accumulée et stratifiée pendant plus de 2000 ans, ce pauvre Confucius que vous voyez donc sur cette diapositive a-t-il encore une chance de nous apparaître comme un être vivant et pensant? Alors, cette idée de résurrection qui fait partie du titre du cours de cette année, donc intitulé Confucius ressuscité avec un grand point d'interrogation. Donc cette idée de résurrection ne manque pas dans le contenu, enfin dans le contenu culturel et le contexte qui sont les nôtres, d'évoquer la figure d'un autre ressuscité célèbre, à savoir celle de Jésus-Christ. Alors sans, je me hâte de le préciser, sans entrer d'aucune façon dans les débats d'ordre théologique ou religieux, ni même dans un pseudo-dialogue interreligieux à la façon du forum Nishan, donc situé près du lieu de naissance supposé de Confucius, dont nous parlions la dernière fois. Donc, en mettant de côté vraiment tous ces débats et ces entreprises, on ne peut manquer cependant d'être frappé par certaines analogies entre le cas de Confucius et celui de Jésus dans les processus de construction d'un personnage, de construction de sa légende et aussi de construction des sources textuelles qui lui sont associées. Nous en étions restés la dernière fois au premier récit biographique, alors entre huit paires de guillemets, le mot biographique est véritablement à prendre avec beaucoup de précaution. Donc ce premier récit qui prétend retracer de manière suivie et plus ou moins chronologique la vie de Maître Krong, celui que nous connaissons depuis l'intercession des Jésuites sous le nom de Confucius. Mais ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est que ce récit se présente sur un mode de toute évidence hagiographique plutôt que biographique, c'est-à-dire que ce récit ressemble par bien des aspects au récit de la vie d'un saint, hein, c'est ce que veut dire le mot hagiographique, ou en tout cas au récit de la vie d'un être extraordinaire, au sens le plus propre du terme, c'est-à-dire qui se situe bien au-dessus ou au-delà du destin d'un être humain ordinaire. Alors ce premier récit, nous le disions la dernière fois, nous le trouvons au chapitre 47 du Shidi. Donc vous avez les caractères chinois donc en haut de la diapositive. Titre traduit en français par Édouard Chavannes. Édouard Chavannes a donc choisi la traduction par Mémoires historiques. Alors, ce Shidi est l'œuvre véritablement monumentale de l'historien qui est considéré comme le premier véritable historien chinois, donc de Sima Qian, qui, Sima Qian, vous avez son nom en deuxième position sur la diapositive, qui aurait vécu donc aux environs de à peu près 140 à 86 avant l'ère chrétienne. Donc ce chapitre 47 figure fort heureusement pour nous dans la partie des mémoires historiques traduites par Chavannes. Et encore plus heureusement pour nous, on peut trouver sur Internet, en accès libre, cette traduction du chapitre 47 en français par l'un des plus éminents représentants de la sinologie française de l'ère moderne. C'est ce qu'a été véritablement Chavannes, dont je rappelais la dernière fois qu'il a été professeur ici au Collège de France. Alors, le premier récit de la vie de Confucius, qui est donné par le Shidi, a été donc compilé, semble-t-il, vers le début de la dynastie Han, donc qui a été fondée officiellement en 206 avant Jésus-Christ. Or, la compilation du Shidi, on la situe aux alentours de 100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ près de, enfin, 4 siècles après le vivant de celui qui en fait l'objet, donc à savoir Confucius. Or, malgré cet éloignement dans le temps, qui serait de nature à faire douter de la véracité de ce récit, c'est donc ce récit qui a servi de base à quasiment tous ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, cette espèce de vulgate continue de se perpétuer. Alors, pour notre part, nous ne retiendrons de ce chapitre 47 que les points qui nous paraissent intéressants pour notre propos, qui consistent, je vous le rappelle, à voir d'abord dans quelle mesure l'image du Confucius qui nous a été transmise, est-ce que cette image n'aurait pas été forgée à l'époque Han, donc relativement tardivement par rapport au vivant de Confucius, mais précisément à l'époque où naissait, donc se mettait en place un nouvel ordre impérial. Et il s'agit en même temps de voir dans quelle mesure donc les entretiens de Confucius, en tant que production textuelle, en tant que produit textuel, il s'agit de voir dans quelle mesure le Lu participe de la construction de cette image d'un Confucius, on pourrait dire, impérial. Alors, ça, c'est une constatation qu'on peut faire beaucoup plus généralement à propos de pas mal de, on pourrait dire, de grandes figures des spiritualités du monde. Je m'engage en fait dans une sorte de mise en parallèle avec la figure de Jésus-Christ, mais vous pouvez prendre aussi d'autres grandes figures de chefs religieux ou de fondateurs donc de spiritualité dans le monde, et vous retrouverez très souvent ce même processus, on pourrait dire d'institutionnalisation, donc d'un personnage qui a commencé par, semble-t-il, frapper l'imagination de ses contemporains, de son vivant, et qui ensuite a été, on pourrait dire, transformé et, pour dire les choses un peu vulgairement, donc récupéré par certaines formes institutionnalisées, voire certaines formes idéologiques. Alors, la question qui se pose à nous et qu'il nous faut garder à l'esprit pendant tout le temps que nous travaillons peut se formuler ainsi. Faut-il supposer que la légende de ce maître Kron, de Confucius, s'est constituée de manière plus ou moins aléatoire dans une sorte de folklore, et je reviendrai tout de suite sur ce mot. Donc, est-ce qu'elle se serait constituée donc de manière assez erratique ou aléatoire au cours des siècles écoulés entre le vivant de Confucius, c'est-à-dire 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, et l'instauration de l'empire Han, donc au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, et faudrait-il aussi supposer que cette légende se trouve en quelque sorte figée dans le marbre, pour employer une image plutôt gréco-romaine que chinoise, enfin, est-ce que cette légende se serait figée pour les besoins de la cause impériale au cours des quatre siècles qu'a duré la dynastie Han, donc entre, en gros, donc 206 avant notre ère et 220 de notre ère. Alors, si, et je continue, je pousse un peu plus loin le raisonnement, donc si cette supposition est un tant soit peu fondée, le texte du Lun Yu lui-même, des entretiens, donc, ne serait-il pas qu'un ramassis de citations, ou de ce qu'on pourrait appeler aussi de morceaux choisis, pris dans la littérature très vaste et très variée de la multiplicité des maîtres à penser de l'Antiquité pré-impériale, et également pris dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le folklore, sans qu'on puisse déterminer avec exactitude celles de ces citations ou ceux de ces morceaux choisis qui sont véritablement attribuables plus spécifiquement à Maître Kron. On a vu précédemment que les textes de l'Antiquité pré-impériale sont encore en fait des productions textuelles extrêmement fluides, dans la mesure où on a vu qu'elles sont construites avec des building blocks, comme diraient nos collègues américains, donc des cubes de jeux de construction extrêmement mobiles. Ces cubes prenant plutôt la forme en fait de lattes, de fiches de bambou, qui peuvent être disposées et redisposées plus ou moins donc à sa guise. Alors, j'insiste un petit peu sur cette notion de folklore. Alors, je vous rappelle que c'est un mot qui nous vient de l'anglais. Donc, vous avez le mot folk, qui est bien sûr qu'on retrouve en allemand, le fameux mot folk, que vous avez dans la marque automobile Volkswagen, donc la voiture du peuple, donc qui le folk désigne donc les gens, le peuple, combiné avec le mot law, L-O-R-E, qui désigne un ensemble de récits ou de savoirs traditionnels que l'on se transmet de génération en génération. Alors évidemment, le law, on voit bien en fait, bon, ce que les aînés peuvent transmettre à leurs cadets au coin du feu pendant les longues soirées d'hiver. C'est un ensemble qui se véhicule par des moyens qui ne sont pas nécessairement consignés par écrit. Le folklore, ça peut être des chansons, des danses, des dictons, des devinettes, des rébus, des anecdotes, des historiettes en tout genre, voire des histoires drôles. Tout ça, ça fait partie du folklore. Et pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que, comme nous l'avons vu il y a quelques années, donc dans le deuxième volet du cycle Confucius revisité, c'était en 2009-2010, si mon souvenir est bon, donc nous avons gardé l'image d'un Confucius qui nous vient essentiellement donc de la façon dont Confucius s'est présenté aux premiers missionnaires chrétiens, donc présents en terre chinoise dès le XVIe siècle, mais surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle, et au premier rang desquels figurent donc les missionnaires jésuites, qui se sont chargés donc de présenter aux élites européennes des XVIIe, XVIIIe siècles, autrement dit donc les élites européennes dans ce qu'on a appelé les Lumières, ils ont présenté donc un Confucius Sinarum Philosophus, c'est-à-dire donc un Confucius philosophe des Chinois. Et là, si certains d'entre vous se souviennent, je suis en train de rappeler le titre d'un ouvrage monumental compilé par un groupe de jésuites et paru donc à la fin du XVIIe siècle, sous d'ailleurs le patronage de Louis XIV. Dans cet ouvrage monumental, donc, figuraient des traductions assez substantielles donc, du corpus canonique confucéen. Et ça me paraît tout à fait symptomatique que le Confucius des jésuites, c'est avant tout un Confucius philosophus, c'est-à-dire un Confucius philosophe. Alors pas simplement philosophe, mais aussi bien sûr présenté donc aux élites européennes à l'image des philosophes de l'Antiquité gréco-latine, grecque essentiellement, notamment donc des philosophes stoïciens dont les philosophies faisaient partie intégrante de la culture intellectuelle des jésuites, donc qui ont cru reconnaître en Confucius, au fond, encore un autre, finalement, philosophe stoïcien. Confucius était présenté comme un penseur qui avait produit, en quelque sorte, un contenu doctrinal qui aurait été consigné dans un ouvrage intitulé justement le Leyu, c'est-à-dire donc les entretiens. Nous avons commencé à voir depuis l'année dernière que nombre de travaux actuels de nos collègues sinologues de par le monde. L'objectif de ces travaux est de précisément d'aller à l'encontre de cette image d'un Confucius statufié en vieux sage vénérable et pontifiant, hein, qui nous est parvenu par l'intermédiaire de la tradition lettrée, canonique et exégétique. Et donc, l'objectif serait de faire ressortir, enfin, au fond, de ressusciter un Confucius plus originel, c'est-à-dire de faire ressortir les origines probablement plus populaires qu'on aurait pu le croire de sa légende. Alors, j'ai annoncé donc certaines analogies avec justement la figure du Christ, mais si on veut parler d'un folklore populaire qui se serait formé dès l'Antiquité préimpériale autour de la figure de Confucius, on pourrait évidemment faire de Confucius une sorte de Robin des Bois, hein. Il n'y a qu'un pas, hein. Mais en effet, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger, hein. Je comprenez bien donc que le Confucius philosophe, c'est une construction non seulement très tardive, mais une construction qui vient essentiellement de l'Europe. Au fond, si nous voulons faire ressusciter Confucius, je crois qu'il faut aller regarder justement du côté de la légende. Alors, pour revenir donc à ce premier récit qualifié à tort, je pense, de biographique, que l'on trouve dans les mémoires historiques de Sima Qian, qui date des Han, donc, ce récit commence par ce que nous appellerions dans notre institution républicaine donc une fiche d'état civil, hein, en bonne et due forme, avec nom, lieu de naissance, généalogie. Donc, si vous prenez donc le tout début, hein, du Shiti, donc chapitre 47, vous apprenez que Krongzi, donc maître Krong, est né dans un lieu-dit Zhou, qui faisait partie du district de Changping, donc au pays de Lu, hein, ce quatrième caractère sur la diapositive, dont nous avons vu qu'il se situe, là si je retrouve ma carte quelque part, qui se situe donc dans l'actuelle province du Shandong. Donc vous avez ici le pays de Lu. Vous apprenez également que l'ancêtre de Maître Krong était originaire d'un pays voisin, le pays de Song. Alors Song n'a rien à voir avec la dynastie largement ultérieure des Song, et que son ancêtre s'appelait donc Krong Fangshu. Alors cet ancêtre, et là vous avez donc une espèce de généalogie, comme vous la trouvez également dans la tradition biblique, cet ancêtre a engendré donc un certain Po Xia, hein, et ce Po Xia donc a engendré le père de notre Confucius, qui s'appelait donc Shu Lianhe. Alors ce Shu Lianhe, et là vous avez une phrase qui nous intrigue, enfin qui devrait nous intriguer beaucoup. On nous dit que ce Shu Lianhe, c'est Ye He, hein, c'est-à-dire, et si je traduis très littéralement, ça voudrait dire il s'est uni de manière sauvage avec une fille de la famille Yen, et c'est ainsi qu'il a engendré Maître Krong, Krongzi. Alors, ce récit commence par, ça commence assez tranquillement par une, comme je vous disais, une fiche d'état civil qui a l'air assez formatée, mais dès les premières phrases, vous avez cette histoire de hier, hein, de d'union sauvage. Si on traduit très littéralement, je reviens donc à mes ma page de caractère, donc qui, comme vous pouvez l'imaginer, donc a grandement embarrassé les exégètes, qui ne pouvaient pas évidemment décemment traduire très littéralement, enfin en tout cas comprendre de manière très littérale, ni même envisager, ne serait-ce qu'envisager l'idée que Confucius fût né d'une union autre que légitime. Alors, de fait, notre Chavannes national donne pour sa part une traduction étrangement contournée. Il nous dit que ce Shu Lianhe, qui est donc le père de Confucius, contracta une union disproportionnée avec donc une fille de la famille Yen. Bon, alors, Chavannes nous dit en note que cette formulation, donc un petit peu contournée, est censée signifier qu'il y avait, et là je pense que Chavannes s'appuie largement sur l'exégèse canonique chinoise, c'est censé signifier qu'il y avait une très grande différence d'âge entre le père de Confucius, hein, qui aurait été donc au moment où s'est produite cette union, donc un homme d'un âge déjà avancé, certains exégètes parlent d'un homme âgé largement de plus de 60 ans, et d'une très jeune fille, donc à peine pubère. Bon, c'est ça que voudrait dire donc l'expression hier, donc cette union sauvage. Bon, écoutez, moi je vous laisse en penser ce que vous voulez, donc, et je continue donc sur le texte du chapitre 47 du Shedi. Donc, on nous dit que sa mère, donc, on suppose que c'est sa mère, pria, hein, elle a adressé des prières, donc, sur ce qu'on appelle le Nichou, c'est-à-dire donc la colline Ni. Alors, ce Nichou, c'est en fait ce que les contemporains appellent le Nishan, c'est-à-dire donc le mont ou la colline Ni. Et c'est là qu'on a situé, qu'on a décidé de situer donc cette grotte du maître, ce Fuzitong, hein, qu'on a vu précédemment, hein, cette espèce de trou donc qu'on a aménagé à coup de pioche, à mon avis, ou à coup d'explosif, je ne sais pas, enfin, dans cette colline, et qu'on a décidé que c'était là que se situait donc la crèche, en quelque sorte, donc du petit Confucius. Et c'est donc à la suite de ces prières sur la colline Ni que cette jeune fille, hein, a conçu donc Maître Cron. Alors, vous allez voir qu'on va revenir donc à cette histoire de Chio, puisque on nous dit ensuite que Maître Cron est né la 22e année, hein, ça c'est situé très précisément dans le temps, quand je vous disais que les Chinois sont vraiment des obsédés des repères historiques. Hein, donc, Maître Cron est né la 22e année du règne du duc Xiang du pays de l'eau, ce qui correspondrait donc à l'an 551 avant Jésus-Christ. Et on nous dit que, et c'est là que les choses recommencent aller du côté du surnaturel, donc à sa naissance, son crâne présentait, hein, une grosse bosse, hein, une espèce de protubérance. Et c'est la raison pour laquelle on a tiré de cette protubérance de son crâne son nom personnel, hein, ce qu'on appelle en chinois le Ming, hein, c'est le nom que l'enfant se voit attribuer à la naissance. On lui a donné comme Ming, comme nom personnel, Chou, hein, qui justement désigne un monticule ou un tertre, hein, par référence précisément donc à, au lieu de naissance qu'on lui a assigné, c'est-à-dire le Ni Chou, c'est-à-dire la colline Ni. Hein. Et c'est aussi justement du fait de ce lieu de naissance qu'on a tiré donc son appellation, hein, le Zi, hein, qui est donc Zhongni, c'est-à-dire littéralement le cadet, hein, c'est-à-dire le deuxième fils, Ni. Et donc c'est tout ce conglomérat donc qui tourne d'appellation, de dénomination, hein, qui tourne tous autour du thème justement de ce monticule, de cette colline. Alors juste un petit rappel sur le système donc des appellations en chinois, parce que ça évidemment ça ne fait que compliquer la lecture pour les Européens que nous sommes, hein, c'est que dans la littérature, qu'elle soit historique ou romanesque, etc., donc, non seulement vous devez essayer de retenir des noms chinois qui sont totalement imprononçables, hein, et par conséquent très difficiles à mémoriser, mais en plus, un chinois qui se respecte, hein, a au moins trois noms différents, hein, sinon quatre. Et naturellement, dans la littérature, un même personnage peut apparaître sous un de ces trois, quatre, voire cinq, six ou plus appellations. Hein. Donc là, il faut justement tous connaître toutes les appellations d'un même personnage, parce que sinon, vous n'arrivez pas à comprendre qu'il s'agit de la même personne. Hein. Bon. Donc, vous avez d'abord, bien sûr, pour un personnage, son nom de famille, hein, qui est donc Kron. Hein, ça, c'est ce que nous rappelle le chapitre 47 du Shedi. Donc, notre Confucius avait pour nom de famille Kron. Hein, bon, il venait de la famille Kron. Comme on a vu, ses ancêtres portaient le même nom, hein, et ainsi que ses descendants. Donc, ensuite, à la naissance, on lui donne un Ming, hein, donc un nom personnel. Et ensuite, et ça, c'est quelque chose qui, en principe, intervient au moment où, symboliquement, donc, l'enfant commence à passer donc, à l'adolescence, hein, il y a en général une cérémonie où il reçoit l'équivalent de la coiffe virile, hein, pour les Romains, donc, et c'est à ce moment-là qu'on lui attribue une appellation, hein, et alors donc là ça nous fait déjà trois noms. Et en plus, bien sûr, si vous êtes écrivain, artiste, vous aimez également vous donner en fait des noms de plumes ou des noms d'artistes qui peuvent être multiples aussi. Hein. Donc un même personnage peut être connu sous tous ces noms différents. Alors, donc le récit de cette naissance, on le voit dès les premières phrases, nous plonge d'emblée dans la géographie, c'est-à-dire la vie d'un être extraordinaire, plutôt que dans une biographie pure et simple. On a vu que la mère conçoit donc le petit Confucius après moult prières. Alors bien sûr, on ne peut pas exactement parler enfin d'Immaculée Conception, mais enfin, on n'en est peut-être pas très loin. Hein. Là, il y a une conception bon, qui est assez mystérieuse, puisque le récit du chapitre 47 poursuit en disant que il y a ce père très mystérieux, hein, donc dont on perd finalement la trace assez rapidement, étant donné que on n'arrive pas exactement à situer sa tombe, hein, ce qui est évidemment dans le contexte du culte ancestral, hein, qui vient de la haute antiquité chinoise, très ennuyeux, parce que si vous ne pouvez pas en fait rendre un culte à votre père parce que vous ne savez pas où se trouve sa tombe, c'est vraiment très, très ennuyeux. En outre, l'enfant, on l'a vu, porte des marques physiques auxquelles on est censé reconnaître un être supra-humain, hein, puisqu'il naît avec ce crâne qui a l'air d'une colline ou d'un monticule, hein, qui se trouve donc associé à son nom personnel, donc Cho, et que l'on retrouve d'ailleurs dans l'iconographie ultérieure. Ici, vous avez par exemple un portrait de Confucius, alors tout à fait tardif, qui est daté du XVIIIe siècle et qui est d'ailleurs en fait la représentation que j'ai choisie pour ma propre traduction des entretiens de Confucius, où là vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez ici donc ce front extrêmement ce front très très haut, avec justement cette protubérance qui est très marquée ici. Alors, comme autre marque physique, un peu plus loin, toujours dans ce même chapitre 47 des Mémoires historiques, on nous précise que Maître Krong avait une taille de 9 pieds 6 pouces. Et on vous dit aussi que ses contemporains, les gens, voyaient tous en lui un véritable géant. Hein, ils s'en ébaubissaient tous, hein, c'est-à-dire ils trouvaient cet être très, très étrange. Hein. Alors, certains exégètes modernes se sont amusés à trouver l'équivalent, hein, de ces 9 pieds 6 pouces, et selon eux, ça équivaudrait à une taille de 2,20 m. Ce qui fait dire donc à Li Ling, cet historien de l'université de Pékin dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, ce qui lui fait dire à Li Ling que Confucius aurait eu la même taille que le basketteur vedette Yao Ming, hein, l'un des héros des Jeux olympiques de Pékin, et l'un des rares Chinois, sinon le seul, à jouer dans la NBA américaine, hein, probablement du fait de sa taille. Hein. Maintenant, Yao Ming a profité de son védétariat maintenant pour faire beaucoup de publicité. Donc vous le retrouvez à tout bout de champ dans les encarts publicitaires de la télévision chinoise. Alors, donc imaginez Confucius un petit peu à son image. Alors, donc là, en fait, ça nous fait réfléchir un petit peu sur, le fait que ce que nous appelons les grands hommes peuvent être aussi des hommes grands. Hein. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas Yao Ming, tout le monde n'est pas Confucius, tout le monde n'est pas le général de Gaulle, mais enfin, disons que peut-être d'avoir une grande taille, ça peut aider, hein, s'imposer. Hein. Alors, ces marques physiques supranaturelles, qui peuvent être aussi, par exemple, le fait d'avoir plusieurs paires d'yeux ou d'avoir des oreilles anormalement longues, hein, toutes ces marques physiques sont censées caractériser la plupart des souverains mythiques de l'Antiquité chinoise. Là, nous avons un Confucius avec un crâne protubérant, mais ici, vous avez cette représentation donc d'un autre sage de l'Antiquité mythique, qui est en l'occurrence Shen Nong, c'est-à-dire le divin fermier, C'est un de ces donc héros culturels tout à fait mythiques de l'Antiquité chinoise, qui est censé donc avoir enseigné aux hommes, aux êtres humains, l'art de cultiver la terre, hein, et leur avoir appris justement à domestiquer donc les plantes, etc. Enfin bref, donc à pour un peuple, disons, paysan comme le peuple chinois, hein, Shennong est une ce divin fermier est une figure évidemment tout à fait fondatrice. Et comme vous voyez sur ce portrait, donc ce divin fermier est aussi doté d'un crâne avec une forme très bizarre, hein. Alors lui, il se contente pas d'avoir la bosse des maths, il en a même deux, hein. Donc vous avez des espèces de cornes qui me rappellent d'ailleurs en fait le titre de la leçon inaugurale de mon collègue de la chaire des milieux bibliques, Thomas Römer, hein, qui a intitulé sa leçon inaugurale donc les cornes de Moïse, hein. Donc là vous voyez que nous ne sommes pas comment dire, dans une exclusivité chinoise. Et dans le contexte, hein, puisqu'il faut bien revenir un petit peu à notre contexte Han des mémoires historiques, il s'agissait sans doute d'inscrire Maître Krong dans la lignée justement de ces souverains mythiques. Alors, on remarquera au passage que, très curieusement, le chapitre 47 des mémoires historiques, qui est consacré à la vie de Confucius, est intitulé, donc c'est ce que vous avez tout en bas de la diapositive, Krongzi Shijia, hein, c'est-à-dire donc, si je traduis assez littéralement, maison héréditaire de Maître Krong, hein, alors qu'on aurait dû s'attendre, hein, à voir figurer cette prétendue biographie précisément dans la section justement des biographies, c'est-à-dire des liezhuan. Vous avez donc dans les mémoires historiques toute une section donc dont tous les chapitres s'intitulent le liezhuan de tel personnage, hein, c'est-à-dire biographie, hein, de tel personnage, alors que ici donc cette biographie de Maître Krong ne figure pas dans cette section de biographie, mais dans une autre section dont chaque chapitre porte justement la mention de Shijia, c'est-à-dire maison héréditaire de tel ou tel pays ou de telle maison. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que dans cette section des maisons héréditaires, le chapitre dédié à Confucius est l'un des rares qui soit consacré justement à un individu, à un personnage individuel et non pas justement à une maison ou une famille. Alors, on a supposé, hein, et c'est une hypothèse qui me paraît assez plausible, que la raison justement de ce placement, hein, dans une section à laquelle on ne s'attend pas, c'est que à l'époque de Sima Qian, c'est-à-dire nous sommes encore une fois au début des Han, Confucius, hein, Maître Krong et sa lignée, hein, étaient déjà l'objet d'un culte officiel. C'est pour cela que donc sa biographie, hein, ne figure pas dans la section Liezhuan, mais dans cette section Shijia. Et on pourrait dire que tout contribue justement à faire de Confucius beaucoup plus qu'un personnage ordinaire qui aurait droit, justement, enfin un personnage déjà important, mais qui aurait droit simplement à une biographie. Confucius est pris véritablement comme représentant à lui seul, finalement, toute une maisonnée, une filiation, une ascendance et une descendance qui est à l'égal, justement, d'une maison royale, en quelque sorte. Et sous les Han, et on y reviendra justement, Confucius est présenté comme quelqu'un qui est extraordinaire, hein, et comme diraient donc les anglophones, qui est larger than life, hein, c'est-à-dire qui est plus grand que la vie, hein, et qui donc représente à la fois donc un personnage royal, hein, et un personnage qu'on a même quasiment divinisé. Et ça se trouve justement déjà dans ses détails sur sa conformation physique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas entreprendre de lire avec vous l'intégralité de ce chapitre 47, hein, puisque vous pouvez le faire vous-même en accès libre sur Internet. Et d'ailleurs, ce ne serait pas absolument intéressant pour notre propos, mais je me contenterai de résumer très brièvement ce qu'en a retenu la Vulgate, hein, ce que on trouve à peu près partout dans n'importe quelle introduction justement à Confucius, hein, y compris d'ailleurs dans la mienne ici. Hein, donc, notre maître Krong, nous le savons, était originaire de cette petite principauté de Lu, qui, on l'a vu sur la carte tout à l'heure, se trouvait cernée de tous côtés par des principautés plus grandes et plus puissantes. Bon, je vais quand même revenir à ma carte là, puisque voilà. Donc vous avez votre principauté ici de Lu ici, et vous voyez que tout autour, donc il y a des pays qui sont, enfin des puissances qui sont beaucoup plus étendues géographiquement. Alors c'est cela qui expliquerait que notre Confucius se soit évertué à prendre du service et à proposer ses conseils, d'abord, bien sûr, dans son pays natal de Lu, où il a, selon en tout cas les mémoires historiques, exercé des fonctions de ministre, hein, mais la légende toujours véhiculée par les mémoires historiques voudrait qu'il l'ait à mi-parcours, c'est-à-dire aux alentours de la cinquantaine d'années, quitté donc assez brusquement son pays natal de Lu, après avoir constaté que son prince préférait la compagnie des danseuses à la tâche beaucoup plus austère de gouverner. Donc là, Confucius part en claquant la porte, en quelque sorte, et se lance dans une longue pérégrination de plusieurs années avec quelques compagnons à travers les principautés donc de l'époque pour tenter de convaincre leur prince de l'employer et donc de prendre en compte ses sages conseils sur l'art de gouverner. Mais malheureusement pour lui, il n'est jamais parvenu à convaincre quelque souverain que ce soit, hein, de manière durable, hein, et il finit donc par revenir vieilli, fatigué, usé et désabusé dans son pays d'origine de Lu, où il, nous dit ça, le chapitre 47, il passe le restant de ses jours à tenter de transmettre sa vision du monde et des choses, hein, un petit peu par défaut, hein, aux disciples qui lui sont restés fidèles. Quand vous avez, comment dire, rater votre carrière politique, vous vous retrouvez à faire de l'enseignement. Disons que quelquefois, vous avez aussi le cas de certaines carrières inversées, hein, d'enseignants qui deviennent ministres. Hein, là, au fond, nous avons qu'est-ce que nous avons ? Le récit, hein, dans ses grandes lignes, de la carrière de ce qu'on appellerait de manière très contemporaine et assez familière la carrière d'un loser, hein, la carrière d'un perdant. Ce que je pense voudrait nous faire passer ce chapitre 47 des Mémoires historiques, c'est la carrière, on pourrait dire, d'un loser magnifique. C'est-à-dire, au fond, et là, tous ceux qui, de nombreux spécialistes des mémoires historiques, spécialistes de Sima Qian et aussi, bien sûr, spécialistes de ce chapitre 47, ont cru remarquer une analogie, justement, entre le destin que les mémoires historiques attribuent à Confucius, hein, c'est-à-dire donc cette carrière donc d'abord en montée en puissance, puisque donc Confucius serait passé de postes de plus en plus importants dans la carrière gouvernementale dans son pays natal jusqu'à devenir ministre de la justice, dit-on, hein, et ensuite cette espèce d'errance, hein, un petit peu désespérée à travers les principautés de l'époque, où là, en fait, il se prend toujours la porte dans la figure et où il finit par revenir complètement désabusé. Hein, et pour évidemment finir de l'achever, hein, il transmet son enseignement à des disciples, mais manque de chance, son disciple préféré, hein, qui est Yan Hui, et qu'on va retrouver un peu plus loin, donc son disciple préféré meurt de manière tout à fait prématurée, hein, ce qui provoque évidemment, ce qui finit de désespérer le maître, hein, puisque le disciple sur lequel il comptait le plus pour continuer à transmettre son enseignement, donc disparaît avant lui. Hein. Bon, donc ce qu'a retenu le Shiji, c'est justement cette courbe ascendante puis ce déclin. Hein. Bien sûr, beaucoup ont vu une sorte de parallèle avec le destin de Sima Qian lui-même, hein, puisque Sima Qian a eu un destin, bien sûr, tout à fait légendaire aussi dans la mémoire collective chinoise. C'est quelqu'un qui avait aussi une ascendance prestigieuse, hein, puisque son père était donc un archiviste de la bibliothèque impériale, hein, donc Sima Tan, hein, et donc Sima Qian a entrepris justement ce travail de compilation donc dans le prolongement du on pourra dire de la carrière de son père, il a eu le malheur de s'attirer les foudres donc de son patron, de son employeur, qui n'était autre que l'empereur Han Wudi, donc cet empereur conquérant et cet homme politique visionnaire donc dont nous avons parlé la dernière fois. Et s'étant attiré les foudres de cet empereur, Sima Qian a subi donc l'un des châtiments les plus cruels, hein, avant donc la mise à mort, c'est-à-dire donc le châtiment de la castration. Donc là, je vous rappelle que dans la Chine ancienne, hein, vous aviez en fait un droit pénal qui était fondé donc sur un système de tarification consistait essentiellement donc dans des châtiments donc physiques et qui consistait comme on le voit encore à l'heure actuelle où on nous montre un petit peu ce que peuvent faire en fait des fanatiques religieux qui consistait donc essentiellement à couper quelque chose. Donc alors on commençait par le châtiment le moins cruel mais non moins infamant, c'était la marque qui vous marquait justement comme un criminel et qui vous marquait à vie plus ou moins. Ensuite on vous coupait le nez, ensuite on vous coupait le pied, un pied, ensuite l'autre, etc. Et puis alors ainsi de suite jusqu'à en arriver donc au châtiment de la castration. Alors la castration, bien sûr, ça fait pas du bien physiquement en général, mais plus particulièrement, c'est le côté infamant de la castration, c'est évidemment de vous empêcher en principe d'avoir une descendance. Ce qui, évidemment, dans le contexte chinois, surtout de l'époque, était quelque chose d'absolument tragique. Et bien sûr, le dernier châtiment, c'est bien sûr la décapitation, ce qui fait que là, de toute manière, il n'y a plus tellement de suite. Ce qui me paraît tout à fait intéressant en tout premier lieu pour notre propos, et là je vais peut-être en rester là pour aujourd'hui, c'est de noter qu'on retrouve dans ce chapitre 47 un certain nombre de propos et de fragments de dialogue que le chapitre 47 a conservé à l'état de dialogue, qui figure aussi dans le texte des entretiens. Alors, on a longtemps supposé que les mémoires historiques reprenaient ces fragments de dialogue dans les entretiens pour ensuite les replacer en contexte et dans le fil d'un récit continu, cohérent et chronologiquement ordonné. Mais nombre de chercheurs se demandent aujourd'hui si, en fait, il ne faudrait pas, en fait, inverser les choses. Ils ont commencé par se demander si c'est bien les mémoires historiques, si ce sont bien les mémoires historiques qui citent les entretiens que l'on a supposé donc antérieur, et ils ont continué en se demandant si on ne pourrait pas justement inverser le processus, si le processus inverse ne pourrait pas être tout aussi plausible. Et selon certains de ces spécialistes, les entretiens, le Lui, pourraient tout aussi bien avoir été compilés comme un florilège de morceaux choisis ou de propos sélectionnés attribués à ou mis dans la bouche de Maître Cron au moment où ce personnage commençait à être statifié ou sacralisé, voire divinisé sous les Han, qui avaient bien compris qu'un nouvel ordre centralisé devait se doté non seulement de nouveaux modes de gestion et d'organisation gouvernementale et administrative, mais aussi d'un nouvel ordre que nous qualifierions aujourd'hui d'idéologique. Ça, je pense que ça a été véritablement à la base de la puissance justement de cette dynastie et de cet empire Han. C'est de doubler au fond donc la mise en place d'institutions politiques, justement, d'une idéologie impériale. Alors là, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et nous reprendrons la prochaine fois, justement, sur la construction de cette légende de Confucius, à la fois à travers donc, ce chapitre 47 des Mémoires historiques et à travers les entretiens, le rapprochement justement de ces deux sources textuelles, pour voir que finalement, on peut y percevoir justement des parallèles avec la construction de la légende du Christ dans les évangiles. Bien, merci de votre attention et à la semaine prochaine. Merci.